Nous allons étudier le livre de Jérémie en deux parties. Jérémie est le livre le plus long de la Bible, point de vue de mots. Il est le seul personnage de l'Ancien Testament mentionné comme ce que l'on a cru reconnaître en Jésus-Christ, parce qu'il est l'homme de douleur de l'Ancien Testament, et il a connu la période la plus sombre du royaume de Juda. Il a lui-même subi la persécution. Jérémie est le personnage le plus sensible. C'est le prophète qui a le plus souffert physiquement et moralement. Nous verrons quelques point de sa vie personnelle plus tard. Il avait quelques amis, dont son fidèle secrétaire Baruch, un Éthiopien. La tradition rapporte que Jérémie aurait été lapidé par ses compatriotes exaspérés de son message peu de temps après leur arrivée en Égypte. Jérémie s'inspire beaucoup du Deutéronome pour ses oracles. Il est contemporain de Sophonie et d'Habacuc. Et vers la fin de sa vie se lèvera Ézéchiel, mais de l'autre côté de l'Euphrate. On pense qu'il est né vers l'an 644 avant Jésus-Christ, dans le village d'Anatote, à 5-6 km au nord de Jérusalem, dans le territoire de Benjamin. Il est issu d'une famille sacerdotale. C'est un lieu proche de l'ancien royaume du Nord. Il manifestera un intérêt pour ce reste et étudiera le livre d'Osée, dont on va sentir l'influence dans son propre livre, avec par exemple l'image de l'adultère, la prostitution pour parler de l'idolâtrie, l'image du désert, la nouvelle alliance. Osée a été le prédicateur de la fin du royaume de Juda, du Nord, et Jérémie sera le prophète de la fin du royaume de Juda. Dans le contexte historique, à l'époque de Josias, lorsqu'il avait 20 ans, en l'an 628, il y a eu une bonne réforme. Un an plus tard, Jérémie a reçu son appel. On pense qu'il avait entre 16 et 19 ans, c'était donc un jeune sorti de l'adolescence. La découverte de la loi se produira peu de temps après. En l'an 612, la prise de Ninive, capitale de l'Empire assyrien, qui commence à s'effriter. Et en l'an 609, Babylone commence à monter. Pharaon Nécho remonte pour aider les Assyriens. Josias se met au milieu et se fait tuer. Puis il y aura la bataille de Carchemish, où les Babyloniens écrasent les Assyriens. Ils sont plus forts et déportent des gens, dont Daniel. En l'an 597, il y aura la deuxième déportation par Nebuchadnezzar, dont Daniel. Puis, en l'an 587, la destruction de Jérusalem et du Temple, et la déportation de tout le peuple. Jérémie a connu tout cela pendant une période très difficile. Son ministère couvre à peu près 60 ans, entre son appel et son décès. Il commence donc son ministère sous le règne de Josias. C'est la période la plus heureuse de sa vie, puisqu'il est le témoin de la réforme commencée à l'an 628 et relancée en 622 avec la découverte du rouleau de la loi dans le temple. Le peuple est corrompu et après la mort de Josias, il y a deux rois. Joachas, destitué par les Égyptiens, est remplacé par son frère Joachim, qui exercera un règne de 10 ans et qui a une politique pro-égyptienne. Et Jérémie va devoir s'opposer au pouvoir royal. C'est donc le début de ses souffrances. Sur le plan du texte, on a le plus gros problème de l'Ancien Testament, puisqu'environ 12% du texte massorétique est absent de la Septante. L'ordre des oracles n'est pas toujours le même, mais on a un texte long et un texte court. À la fin de la vie de Jérémie, le peuple de Juda est réparti essentiellement dans deux régions, en Babylonie et en Égypte. Les divergences sont en fait minimes. Il s'agit de doublés non répétés, des expressions comme Jérémie le prophète, Yahvé le Tout-Puissant, et ces différences ne portent aucune conséquence à notre foi, parce qu'elles n'abordent aucun point de doctrine, ni d'éthique, aucun enseignement, aucune information qui remette en cause l'autre texte. Le texte est donc fiable, malgré les accidents de transmission qu'il a pu rencontrer. Le but du ministère de Jérémie, c'est d'appeler le peuple à la repentance, et ce mot va revenir 107 fois dans le livre de Jérémie. 48 fois parmi les 107 à revenir dans un sens spirituel. Il devait annoncer la mauvaise nouvelle de la fin du royaume, c'est-à-dire la fin de la nation. Il devait aider son peuple à passer par ce moment douloureux. Il devait aussi interpréter ce qui se passait, accepter la captivité. Il devait interpréter le passé, le présent et le futur, et expliquer pourquoi Dieu a envoyé ce jugement. Et enfin, il devait donner une espérance aux captifs. Le problème théologique du livre de Jérémie est le suivant. À l'époque, on croyait aux dieux locaux, c'est-à-dire limités dans l'espace. Yahvé, dieu des montagnes, ne pouvait pas être dans la plaine. Les dieux babyloniens sont-ils plus forts que le dieu d'Israël, puisqu'il ne les a pas protégés? Ou alors, peut-être avait-il été capable de nous protéger, mais qu'il ne l'a pas voulu, et il les a abandonnés une fois pour toutes. Depuis le Sinaï, l'adoration de Dieu était centrée sur l'arche, le tabernacle, le système sacrificiel à Jérusalem. Puisque le temple est détruit et l'arche disparue, comment adorer le Seigneur? Jérémie va préparer le chemin du Seigneur et donner une espérance en donnant le terme qui est de 70 ans, comme Daniel. Et il va donner au chapitre 31 une première exposition de la Nouvelle Alliance. Jérémie communique en utilisant des objets et en faisant des actions symboliques que nous étudierons tout au long du livre. Le thème de son livre se trouve en Jérémie 1, verset 10. On pourrait le résumer à « pour arracher et pour planter ». Il est le prophète de l'agonie de Juda, avec la douloureuse mission d'arracher, de détruire les illusions en annonçant la ruine. Mais Dieu lui fait comprendre que ce défrichage était le prélude d'un champ nouveau. Le peuple était tellement corrompu qu'il fallait une destruction totale pour qu'ensuite quelque chose de tout à fait nouveau puisse être instauré. Et la manière dont le Messie est annoncé utilise le langage agricole, on l'appelle le germe. Le défrichage permettra l'apparition du germe juste dans le champ nouveau. On va commencer donc avec la vocation de Jérémie au chapitre 1 et je vais lire les versets 5 à 10. « Avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais fait prophète pour les nations. » Donc, verset 6, « Je répondis, « Ah, Seigneur Dieu, je ne saurais pas parler, je suis trop jeune. » Mais le Seigneur me dit, « Ne dis pas, je suis trop jeune, car tu iras vers tous ceux à qui j'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » Déclaration du Seigneur. Alors le Seigneur étendit la main et toucha ma bouche. Puis le Seigneur me dit, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je te donne en ce jour autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser, mais aussi pour bâtir et pour planter. » Dans ce passage, on voit que son ministère est une décision divine dès avant sa naissance. Dieu l'a façonné en fonction de son projet pour lui. Il lui a donné les aptitudes, les traits de caractère nécessaires à l'exercice de son ministère. La vocation est impérieuse. « Je fais de toi un prophète. » Il sera effectivement prophète des nations, ce qui rappelle le ministère du serviteur du Seigneur chez Ésaïe 42 et 49. Mais il recule devant la vocation en disant « Je ne sais pas parler », au motif qu'il est trop jeune. Effectivement, les prêtres ne prenaient leur fonction qu'à 30 ans, et lui, il en avait entre 16 et 18. Quand il dit « Ah !», ça évoque plutôt un balbutiement de surprise et de timidité. Mais le Seigneur repousse son motif, impossible de résister. Et Dieu lui promet « Moi avec toi ». C'est un ministère offensif, et le prophète doit entrer personnellement et de manière responsable dans le projet de Dieu. Dieu réalise ses desseins sans court-circuiter la responsabilité humaine. Puis Dieu avance la main et lui touche la bouche pour indiquer qu'il met ses paroles dans la bouche de Jérémie. Cette formule renvoie au Deutéronome 18 et Jérémie apparaît comme un successeur de Moïse. La formule nous révèle bien ce qu'est un prophète. C'est quelqu'un qui transmet la parole de Dieu. Les destinataires sont les nations et la grande partie de ses discours vise à dénoncer le mal et détruire les illusions de son peuple. Paul attribuera le même double effet de la prédication apostolique, en disant « pour les uns, odeur de mort, pour les autres, odeur de vie ». Ce récit ressemble à la vocation d'Ésaïe. Pour ceux qui... c'est la conscience de sa condition de pécheur qui pose problème. Pour Jérémie, par contre, c'est un sentiment de faiblesse et d'incapacité qui domine. Mais Dieu s'occupe d'un tout jeune homme sans assurance et dialogue avec lui pour l'encourager. La réponse d'Ésaïe montrait une certaine maturité. « Me voici, envoie-moi » et une assurance, mais qui sont absentes ici chez Jérémie. Le Seigneur se met donc à la portée de chacun de ses serviteurs et s'adapte à eux en fonction de leurs besoins. Paul utilisera le langage de ce récit pour décrire sa propre vocation. Il se dira lui aussi « mis à part » dès le sein maternel dans l'Épître aux Galates. Il sera apôtre des nations. Il sera accusé et persécuté par ses compatriotes parce qu'il annoncera le salut pour les nations, tout comme Jérémie, persécuté pour avoir prédit la victoire d'une nation païenne sur Jérusalem et la domination babylonienne. Tous deux sont issus de la tribu de Benjamin. Paul a été célibataire au moins une partie de son ministère. Paul parle aussi de destruction, de construction pour évoquer son ministère. La tradition dit que Jérémie a été lapidé. Paul a aussi subi ce supplice, mais sans y laisser la vie. On le voit en acte 14. À la vocation de Jérémie sont jointes deux visions. Tout d'abord, celle de l'amandier. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il voit une branche d'amandier qu'on appelle l'arbre veilleur, parce que si on change une seule voyelle, ça donne le même mot. Et tout le monde se moque de lui. Mais le Seigneur lui dit que la promesse est là, même si on ne voit rien. Et c'est la responsabilité de Dieu de veiller à accomplir ce qu'il promet. Nous devons donc être fidèles dans ce que nous devons faire. Deuxième vision, la marmite bouillante, qui est prête à déverser du nord au sud. C'est la prophétie de la destruction par les Babyloniens plus tard. Le plan de Dieu commence à se réaliser. La tâche s'annonce rude et la raison de ce jugement est évoquée au verset 16. Ils ont abandonné Dieu, ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Donc lorsque Jésus est déplacé du centre de la vie, l'homme en arrive à se prosterner devant l'ouvrage de ses mains. Ça peut être tout ce qui est le progrès actuel, je pense à l'électronique, la médecine, etc. Mais Jérémie est exhorté à tenir bon face à l'opposition. Il s'agit de ne pas flancher, et Dieu le soutiendra s'il ne se laisse pas impressionner, ni s'apitoyer sur son sort de solitaire, ni céder aux menaces. « Ne sois pas terrifié par eux, lui dit le Seigneur. Prépare-toi. Si Jérémie tremble, il craindra les autres. S'il est ancré en Dieu, il ne craindra rien. S'il tient ferme, Dieu l'endurcira. » Verset 18 « Moi aujourd'hui, je fais de toi une ville forte, une colonne de fer, une muraille de bronze face à tout le pays. » Dieu lui donne un encouragement. Roi, chef ou sacrificateur, Dieu sera avec lui pour le délivrer. Verset 19. « Car je suis avec toi, déclaration du Seigneur pour te délivrer. » Jérémie devait être un homme de douleur, mais aussi un homme de combat, de conflit, un résistant en quelque sorte. Et puis Dieu conclut par une promesse. Quoi qu'il arrive, Jérémie pourra s'appuyer sur elle tout au long de son ministère. Lorsque les difficultés surgiront, lorsque les souffrances viendront, à chaque jour suffit sa peine, et Dieu ne le prend pas en traître. En tout cas, il y a cette promesse, « Je suis avec toi pour te délivrer ». Les premiers oracles sont inclus dans les chapitres 2 à 6. Au chapitre 2, nous commençons à voir donc l'infidélité de Judas. Ils ont perdu leur premier amour. « Je me souviens de ton amour de jeune marié ». Et là, on est sûr que c'est au début du ministère du prophète. Il est dans la ville de Jérusalem. Et la forme de ce message est un procès légal, avec l'accusation, la présentation des faits, l'évidence et la condamnation. Tout d'abord, on évoque le passé. Juste après l'alliance du Sinaï, dans le désert, Israël aimait Dieu. C'était un temps de dépendance totale de Dieu. Israël était consacré, mis à part. Un bien sacré pour le Seigneur. Dieu protégeait son peuple et Jérémie a le même langage causé. Le présent, aujourd'hui, au verset 6, ils n'ont pas dit où est le Seigneur qui nous a fait monter d'Égypte. Ils avaient oublié les actes de Yahvé pour eux. Je vous ai fait entrer dans un pays de vergers pour que vous en mangiez les fruits et que vous jouissiez de ses biens. À tous les niveaux, les dirigeants se sont corrompus. Que ce soit les sacrificateurs, les lévites, les magistrats, les prophètes. Et Israël n'a aucune excuse pour chercher autre chose. Verset 11. Une nation change-t-elle de Dieu? Pourtant, ce ne sont pas des dieux. Mon peuple, lui, a échangé sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Sois-en atterré, ciel. Ils cherchaient des alliances politiques, hein, une sécurité chez les autres. Et là, au verset 13, on a une image très parlante qui décrit la folie de l'idolâtrie. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Une citerne fissurée ne sert à rien et une source d'eau vive vaut beaucoup mieux qu'une citerne fissurée. Ésaïe a porté le même message avec une image semblable. Il reprochait à ses compatriotes d'avoir préféré le grand fleuve de l'Euphrate aux eaux calmes de Siloé. Au verset 19, « Vois bien comme c'est mauvais et amer d'abandonner le Seigneur ton Dieu, de n'éprouver aucune frayeur devant moi. » Déclaration du Seigneur Dieu des armées. Ils avaient donc perdu leur crainte de Dieu. Verset 20, sur toute colline élevée et sous tout arbre verdoyant, tu t'étends prostituée. Et 22, même si tu te lavais avec de la soude, avec de la lessive tant et plus, ta faute resterait marquée devant moi. Et 24, ânesse sauvage habituée du désert, haletante dans l'ardeur de son désir, qui pourra réfréner son rut? Donc Israël n'est qu'une prostituée qui se couche dès qu'elle voit un arbre et se comporte comme une ânesse en rut. C'est une image très dure. Les idoles sont moins exigeantes que Dieu. Les Israélites ne se tournent vers lui que lorsqu'ils ont besoin de lui. Des versets 26 à 28, je vais lire par rapport à l'idolâtrie. Comme un voleur à honte lorsqu'il est découvert, ainsi la maison d'Israël se couvre de honte. Eux qui disent à un morceau de bois, tu es mon père, et à une pierre, tu m'as engendré. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où sont donc tes dieux, ce que tu t'es fait? Ils se lèvent s'ils peuvent te sauver en temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Les crimes sociaux sont ensuite évoqués parce qu'ils accompagnent l'idolâtrie. Et l'abandon du Seigneur ouvre la porte à la violence. Dieu demande l'amour qui est au service du prochain. Par contre, dans le paganisme, le culte rendu aux idoles est un moyen d'obtenir des divinités qu'elles satisfassent les désirs de l'adorateur. L'idolâtrie est une tentative de manipuler le Dieu à son profit. Et le païen regarde l'autre comme un moyen de parvenir à ses propres fins et exploiter son prochain. La conséquence de l'infidélité, il y en a sept. D'abord, la religion devient une coutume. On passe de la conviction à la culture. Et on dit, tout le monde le fait. Ensuite, Dieu devient le centre de l'univers. Il devient divin. On abandonne la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées. Troisièmement, lorsqu'on abandonne Dieu, on accepte tout et n'importe quoi, n'importe comment. Juda a autant de dieux que de villes. L'homme perd toute stabilité spirituelle et morale. C'est ce qu'on retrouve dans les religions orientales, le bouddhisme. Enfin, on en arrive à des conclusions ridicules. Il pense descendre du bois, de la pierre. Et si on n'accepte pas la révélation divine, on arrive à des conclusions ridicules, ce qui nous conduit à l'idolâtrie. On descend du singe. Enfin, on finit par ressembler à ce qu'on met au centre de la vie. Par exemple, dans le bouddhisme, tout est Dieu. Même les rats, les animaux. Il n'y a plus de respect de l'individu. Dans la pensée biblique, par contre, l'homme a de la valeur parce qu'il est créé à l'image de Dieu. On perd toute espérance dans la vie. On cherche une solution, une sortie, on n'en trouve pas, c'est vide et creux. Et pour terminer, la vie devient mauvaise, amère, dégoûtante, absurde. Elle donne la nausée. Et on se rend compte que ce chapitre 2 est très actuel et décrit notre société contemporaine du XXIe siècle. Au chapitre 3, on a une prédiction originale, la disparition de l'Arche de l'Alliance, sans doute lors de la prise de Jérusalem. Dieu se passera de ce support matériel, et cette prophétie prépare l'annonce d'une nouvelle alliance. On appellera Jérusalem « trône du Seigneur ». La sainteté va donc s'étendre à la ville. Ce même thème sera repris par le prophète Joël. Et Jérémie reprend à Ésaïe et Michée la vision de l'affluence des nations à Jérusalem. On retrouve aussi cette image en Apocalypse 21, et il s'agit bien d'une conversion des nations. Le thème du reste, associé à l'affluence des nations, implique la constitution d'un peuple nouveau, de nouvel Israël, formé du reste d'Israël ancien et élargi à des gens de tous les peuples. On retrouve la même théologie chez Michée, Ésaïe et Sophonie. Le chapitre 3 commence par l'image de la filiation, qui va remplacer celle de l'image matrimoniale. Dieu est un père qui cherche le bien de ses enfants. Au verset 22, je lis « Revenez, fils rebelles, je vous guérirai de vos infidélités. Nous sommes là, nous venons à toi, car tu es le Seigneur notre Dieu. » Vraiment, les collines et le tumulte des montagnes sont que mensonges. Vraiment, dans le Seigneur notre Dieu, c'est là qu'est le salut d'Israël. Je veux guérir. Le péché est donc vu comme une maladie. Ce n'est pas un acte. Il atteint l'être tout entier. Et le prophète, versets 22 à 25, va donner un modèle de confession que le peuple pourrait adopter dans un mouvement de retour à Dieu. Au chapitre 4, une promesse s'attache à une repentance véritable. Si tu reviens, Israël, si vraiment tu reviens à moi, si tu ôtes tes ordures de ma vue, si vraiment tu ne vagabondes plus. Les nations seront bénies par l'intermédiaire du peuple d'Israël et elles se féliciteront de lui. C'est la promesse qui a déjà été faite à Abraham dans le livre de la Genèse. Des non-israélites afflueront à Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils apprendront des israélites à connaître Dieu et à le servir. Il y a un appel à un renouvellement. On a l'image d'un champ nouveau qu'on défriche et la circoncision du cœur. La circoncision du cœur est une purification de l'être intérieur, une transformation radicale de la personne. La suppression du péché qui engourdit le cœur, centre des décisions, des orientations fondamentales de l'être. Je vais lire le verset 4. « Faites-vous circoncire pour le Seigneur, ôtez le prépuce de votre cœur. » La circoncision était le signe de l'alliance et de l'appartenance à la descendance d'Abraham. Nouvelle circoncision suggère nouvelle alliance. Ça va de pair avec l'ouverture de l'alliance aux nations. On n'appartient plus à l'alliance sur une base nationale, mais individuelle. On n'y entre pas par la naissance, mais par la repentance. Ce n'est donc plus accessible qu'aux seuls Israélites, mais ouvert à tous les hommes. Et Paul reprendra l'image pour développer ces mêmes thèmes en Romains 2 et Romains 4. Donc dans cette première partie, Jérémie a arraché et planté. Dans le chapitre 4, il y a un châtiment sévère qui est annoncé. C'est l'invasion militaire, à partir du verset 6 jusqu'au 8. « Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du nord un malheur, un grand désastre. » Le lion s'élance de son taillis. Le destructeur des nations est en marche. Il sort de chez lui pour réduire son pays en un lieu dévasté. Lamentez-vous, hurlez, car la colère ardente du Seigneur ne se détourne pas de nous. Cette invasion militaire, c'est à cause du refus d'écouter la parole de Dieu. Le chapitre 6 parlera d'une oreille incirconcise. Jérémie nous instruit sur le péché. Les pensées et le cœur sont atteints. C'est le fond qui est mauvais. Et puis l'image creusée sera employée pour montrer que le péché est irrémédiablement incrusté dans l'être. Le péché est présenté comme inintelligent. Il rend incapable de reconnaître le bienfaiteur, incapable aussi de se rendre compte de la situation. Au chapitre 5, diverses fautes seront dénoncées. Des déviations sexuelles. Par exemple, l'expression « chacun d'eux hennit après la femme de son voisin ». Les injustices sociales aussi sont mentionnées. Les tentatives d'alliance avec les peuples étrangers ne serviront à rien. Puisqu'ils ont délaissé le Seigneur pour servir des dieux étrangers dans leur pays, eh bien ils iront servir des étrangers dans un pays étranger. Ils seront déportés dans le pays où on adore ces dieux. Le péché perturbe aussi l'ordre de la nature. Il n'y a plus de pluie à l'époque où il devait pleuvoir. Le climat est déréglé. Et tout ça, c'était aussi prévu par les clauses de l'Alliance. Et malgré plusieurs appels à la repentance, le peuple s'endurcit. Et le prophète souffre vivement de ce message. Au chapitre 7, nous avons ce qu'on appelle le sermon du temple. Il semble que c'était lors d'une fête. Jérémie est à la porte du temple et il prêche. La prétention des Israélites, c'était d'avoir une vie religieuse. Or, la Bible a horreur de l'apparence. Le temple n'est pas une garantie de salut. Et Jacques dénoncera la même aberration de l'idée d'une foi qui ne se manifeste pas par des actes concrets. Ensuite, il prétendait avoir une expérience par le passé. Et le peuple et les sacrificateurs se replient un peu sur cette expérience. Ils sont le peuple de Dieu. Et puisqu'il les a délivrés par le passé, il le fera aujourd'hui. Mais attention, ne pas s'asseoir sur les expériences du passé. Il faut vivre au présent avec le Seigneur. Ils ont des paroles de mensonge, une espérance trompeuse. Mais le temple de l'Éternel doit impliquer des choses vraies. Et là, le cœur n'y est pas, même si les paroles sont vraies. C'est pareil que dire qu'on est chrétien et pratiquer des choses opposées. Le comportement du peuple dans la vie de tous les jours fait que le culte qui rend au Seigneur sonne faux et ne sert qu'à profaner le temple. La réalité, c'est qu'ils ont une conduite inconséquente et hypocrite. Il y a un manque de réalité à l'Alliance. Ils oppriment la veuve et l'orphelin. Ils dérobent, tuent, commettent l'adultère. Ils ont une théologie défectueuse. Il nous le doit de rester ici, puisque nous sommes son peuple. Ils ont aussi une mauvaise théologie de l'omniscience de Yahvé. Il est mentionné au verset 11. « Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Cela, je l'ai vu moi-même. » Dieu voit tout malgré l'hypocrisie. Ils ont fait du temple une caverne de voleurs. Et ce verset, qui reprend Ésaïe 56, sera cité par Jésus à Matthieu 21. La faute des contemporains de Jésus est de même nature que celle des Israélites du temps de Jérémie. Elle aboutira à son tour à la destruction du temple à l'an 70 de notre ère. Ils ont une mémoire sélective. À Silo, on a laissé partir l'arche de l'Éternel en pensant avoir la victoire. C'était une superstition. Parce qu'il y a eu une défaite à Silo. Donc si le cœur n'y est pas, ça ne sert à rien d'avoir un attachement superstitieux au temple. Tant que le temple est là, il croit être à l'abri. Le temple est donc considéré comme un porte-bonheur, un talisman. Ils ont un cœur insensible. Ils n'ont pas écouté le message des prophètes. Le jugement sera une expulsion implicite. Si vous ne changez pas, on vous mettra dehors. Il y aura une destruction de leur fausse confiance. Et Dieu préfère se débarrasser du temple si on s'y confie avec un cœur impur. Et l'expulsion est explicite. Au verset 8, Israël est comparé à un figuier ou à une vigne qui ne porte pas de fruits. Et son châtiment, c'est un dessèchement des feuilles. Ce texte forme l'arrière-plan du geste de Jésus raconté en Matthieu 21 et permet d'en comprendre la signification. Jésus maudit un figuier alors que ce n'est pas la saison des figues. Dépit ou colère irraisonnée ? Ce n'est pas son style d'accomplir un miracle inutile. C'est en fait un signe. Le figuier sans fruit représente Israël qui n'obéit pas à Dieu et ne reçoit pas le Messie. Et la malédiction du figuier annonce un jugement prochain du peuple de Dieu. C'est la même signification que l'image de Jérémie, tout comme la parabole des mauvais ouvriers, où Jésus annoncera que le royaume sera enlevé à ses interlocuteurs pour être confié à un peuple qui emportera les fruits. Au verset 17, « J'envoie parmi vous des serpents, des aspics, contre lesquels il n'y a pas de charme. Ils vous mordront. » C'est une image qui rappelle les serpents dans le désert, en nombre 21. Dieu, à l'époque, avait accordé le salut au moyen du serpent d'airain. Mais ici, pas d'issue possible. Verset 18 à 23, « Je voudrais surmonter mon tourment. Mon cœur souffre dedans de moi. Je suis brisé par la blessure de la belle de mon peuple. Je suis sombre. La dévastation me saisit. Ah, si ma tête était fontaine et mes yeux source de larmes, je pleurerais jour et nuit les victimes pour la belle de mon peuple. » Donc Jérémie souffre de ce message. Et sa souffrance révèle les sentiments de Dieu à l'égard de son peuple. Jérémie n'est pas seulement un porte-parole. Il est, par sa personne, une révélation du cœur de Dieu. Et on comprend pourquoi Dieu a choisi un homme aussi sensible pour porter un message aussi terrible. Il voulait enseigner, au travers de la souffrance du prophète, que ce n'est pas avec joie qu'il afflige les humains, que le jugement n'est pas ce qu'il souhaite pour son peuple. Au chapitre 9, il y a une nouvelle plainte sur le sort qui attend Jérusalem et Juda. Et il fait penser à Jésus qui a pleuré sur Jérusalem quand il entrevoyait la destruction. « Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les pâturages du désert, prononcer une complainte. Car ils sont brûlés, personne n'y passe. » On n'y entend plus les troupeaux, depuis les oiseaux du ciel jusqu'aux bêtes. Tout s'en est allé. Châtiment, c'est la mort. Et il ne reste plus qu'à pleurer et faire le deuil. La mort monte par les fenêtres et fauche les enfants dans les rues. C'est sinistre. L'exil est annoncé. Verset 20. Car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle retranche les enfants des rues, les jeunes gens des places. Jérémie parle ensuite de la vraie sagesse, exercer l'amour, le droit et la justice. Et le verset 23, « Mais que celui qui fait le fier soit fier d'avoir du bon sens et de me connaître, de savoir que je suis le Seigneur et que j'agis sur la terre avec fidélité, équité et justice, car c'est à cela que je prends plaisir, déclaration du Seigneur. » Ce verset 23 sera cité par Paul en 1 Corinthiens 1 et 2 Corinthiens 10. Toutes les nations sont englobées dans le jugement de Dieu. et ce n'est pas la circoncision qui les fera échapper à cette réalité. Il leur manque la circoncision du cœur. Verset 25 à la fin, « Car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur. » Paul reprendra ce thème en Romains 2, versets 25 à 29. En dénonçant le refus de la vérité, la torsion de la loi, la poursuite du mensonge et le fait de se complaire dans l'illusion, Jérémie révèle la dimension intellectuelle du péché. Donc si on veut trouver une bonne définition du péché, il faut lire Jérémie. Au chapitre 10, le prophète imagine la panique du peuple quand tout s'écroule. Le siège de Jérusalem, l'exil, la dévastation, la destruction de tout le pays à cause de l'invasion ennemie venant du nord. C'est une plaie incurable. Et c'est sans doute une prière de Jérémie qu'on trouve à partir du verset 3-24. « Je sais, Seigneur, qu'à l'être humain n'appartient pas sa voie. Il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Corrige-moi, Seigneur, mais avec équité, non pas dans ta colère, de peur que tu ne me réduises à rien. » Cette prière confesse la souveraineté divine. L'homme n'est pas maître de son chemin. Il implore que la correction soit donnée avec mesure et sans colère. C'est donc par la prière qu'on échappe à la panique. On a les confessions de Jérémie dans les chapitres 11 jusqu'au chapitre 17. Donc au chapitre 11, verset 16, « Olivier verdoyen, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné le Seigneur. Dans un grand fracas, il y met le feu, et ses rameaux ne vaudront plus rien. » Israël est comparé à un olivier planté par le Seigneur, tout comme Ésaïe l'avait comparé à une vigne. Il s'imagine que quelques rites pourront le dispenser du jugement. Mais l'arbre sera détruit à cause de l'idolâtrie de Juda. Et cette image de l'olivier est connue en Romains 11. Il y a ensuite un complot contre Jérémie. Il ne se doutait de rien. Et on a l'image de l'agneau confiant qu'on mène à l'abattoir. Puis Dieu lui a dit qu'il y avait un complot contre lui de la part de son village natal. Il a confié sa cause à Dieu et Dieu est au courant de tout ce qui se passe et va intervenir contre eux. Question de Jérémie, chapitre 12 au tout début. Pourquoi la voie des méchants est-elle celle de la réussite? Pourquoi vivent-ils tranquillement tous ceux qui trahissent? C'est la question que posait Job aussi au chapitre 21. Pourquoi les méchants prospèrent? Et Jérémie soulève ici le problème des méchants qui réussissent. C'est un peu une parodie du psaume 1. Les méchants s'enracinent et portent du fruit, comme si Dieu faisait le contraire de ce qu'il a déclaré dans sa parole. Les méchants, ils progressent, ils portent du fruit. Réserve-les comme des moutons pour l'abattoir et consacre-les pour le jour de la tuerie. La réponse de Dieu est inattendue. Versets 5 et 6. Si tu cours avec des hommes à pied qui te fatiguent, comment pourras-tu te mesurer à des chevaux? Et si tu n'es en sécurité que dans un pays paisible, que feras-tu dans les fourrés du Jourdain? Car ce sont tes frères eux-mêmes, ta propre famille qui te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas, car ils auront de bonnes paroles pour toi. Donc cette réponse est inattendue. Dieu ne le console pas. Tu penses que ça va être difficile, Jérémie, maintenant? Eh bien, ça va être pire. Parce que pour l'instant, Jérémie fait la course avec des piétons. Que fera-t-il quand il faudra faire la course avec des chevaux? Le prophète n'est pas appelé à mener une vie tranquille dans un pays de repos. Il faut donc s'endurcir, saisir l'occasion de l'épreuve présente pour acquérir de la résistance en vue d'épreuves plus rudes. Jérémie doit se méfier des personnes de sa propre famille. L'épreuve continue, mais Dieu veille sur lui puisqu'il informe. Les nations voisines souffriront sous les coups des Babyloniens et seront déracinées comme Juda. Puis un oracle de salut. Jérémie arrache et plante. Il annonce que le déracinement des peuples sera suivi d'un enracinement pour eux aussi, car les nations apprendront à servir le Dieu d'Israël. Et Jérémie voit donc que des non-israélites entreront dans le peuple de Dieu pour en faire partie. Ésaïe 2 et Michée 4 annonçaient que les nations afflueraient à Jérusalem pour se convertir au Seigneur. Par contre, ceux qui ne se convertiront pas seront définitivement déracinés. Ainsi, Judas n'est plus aimé du Seigneur et est mis au rang des païens. Les nations obtiennent le même salut que Judas. Et ça, c'est l'argumentation qu'on retrouvera chez Paul en Romains 11 sur la base d'Osée 9. Au chapitre 13, nous avons l'image de la ceinture de lin. Donc, c'est un geste symbolique. On n'écoute plus Jérémie, les gens sont fatigués de l'entendre, mais ce geste va exciter leur curiosité. C'est un peu le même principe de la publicité aujourd'hui. Il se met une ceinture de lin, puis il va la cacher dans le lieu d'un rocher près d'un cours d'eau. Après d'un certain temps, il va la reprendre et elle est pourrie, inutilisable. La ceinture de lin représente Israël. C'est une reprise du sermon au chapitre 11. Le Seigneur se l'était attaché comme son peuple. Et cet attachement est le signe de l'alliance. Mais à cause de l'idolâtrie, le peuple de Dieu devient aussi inutile que la ceinture pourrie. La perdition est donc irréversible. Et on va voir au chapitre 13 un passage très dur où Dieu montre qu'il en a assez de faire grâce. Il est question de déportation, de l'image du vin de la colère divine qui reviendra souvent chez Jérémie. Et Paul parlera lui-même à son tour de vase destiné à la colère divine en Romains 9. Au verset 17, « Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret. À cause de votre orgueil, je verserai des larmes. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau du Seigneur sera amené captif. » Dieu lance un nouvel appel à son peuple. L'annonce de la venue des ténèbres, alors que le peuple atteint la lumière, nous rappelle le prophète Amos. Les ténèbres sont celles du départ en captivité. Le prophète pleure parce qu'on ne l'écoute pas. Et ces pleurs sont une révélation des sentiments de Dieu face à la situation de son peuple. Ils anticipent les pleurs de Jésus sur Jérusalem. Puis l'annonce de la déportation de Judas dans sa totalité suite à une invasion venant du nord. Ce sont les douleurs comparables à une femme en couche, puis au traitement infamant réservé à l'adultère ou à la prostituée. Et le Seigneur interdit à Jérémie d'intercéder. Au chapitre 14, verset 12, « Ne prie pas pour le bien de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'entendrai pas leurs cris de détresse. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Je veux les exterminer par l'épée, par la famine et par la peste. » Jérémie en appelle à l'honneur du Seigneur. Il tente d'intercéder en imaginant tous les arguments possibles, mais le Seigneur lui interdit. Au verset 21, « À cause de ton nom, ne méprise pas, ne rabaisse pas le trône de ta gloire. Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. » Il intercède pour le temple où se situe la gloire divine. Laisser détruire le temple, ça va sûrement ternir la gloire de Dieu aux yeux des nations païennes. Mais Dieu précise qu'intercéder est inutile. Chapitre 15, verset 1, le Seigneur me dit « Quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, je resterai insensible à l'égard de ce peuple. Chasse-les de ma vue, qu'ils s'en aillent. » Il déclare que même si Moïse et Samuel étaient là pour intercéder, ils ne les écouteraient pas. Et ces deux hommes ont été les grands intercesseurs du passé. Le psaume 99 en conserve d'ailleurs un souvenir. Le Seigneur veut faire un exemple terrifiant pour toute la terre, en sorte que le sort du peuple servira de démonstration de ce qu'il en coûte de mépriser le Seigneur. C'est comme ça que Dieu œuvre pour sa gloire, et pas comme l'aurait souhaité Jérémie. Et tout ceci s'accomplira à cause des actions de Manassé. Au chapitre 15, donc versets 6 et 7, « Tu m'as délaissé. » Tu es retourné en arrière. Alors j'étends la main sur toi et je te détruis. Je suis là d'avoir du regret. Je fais disparaître mon peuple qui n'est pas revenu de ses voies. Jérusalem sera abandonnée de tous, car elle a abandonné le Seigneur qui en a assez d'accorder du sursis. J'ai rendu ses veuves plus nombreuses que les grains du sable des plages. Ça nous rappelle Abraham. En tout cas, ceci présage une invasion terrible. Et puis on a l'image du soleil qui disparaît en plein midi pour évoquer la douleur des femmes de Juda, car tous les jeunes hommes ont été décimés. Au chapitre 15, à partir du verset 10, on a la plus difficile et la plus poignante des confessions. « Quel malheur, ma mère, que tu m'aies enfantée. Ça revient à déplorer la vocation qu'il a reçue. Depuis son appel dans le ministère, Jérémie n'a fait que dire la vérité, en restant ferme pour Dieu. La destruction et la déportation vont arriver, mais il doit continuer à dire la même chose. Et la plainte de Jérémie continue. Au verset 15, « Toi, tu sais, Seigneur, souviens-toi de moi, interviens pour moi, venge-moi de mes persécuteurs, reconnais que je supporte les outrages à cause de toi. » Il réclame vengeance. Il supporte la méchanceté à cause de Dieu. Il rappelle à Dieu qui lui appartient. Et nous, on dit aussi souvent, « Mais Seigneur, je suis ton enfant. » C'est privé de pas mal de choses. Il doit mener une vie triste, une vie d'isolement pour Dieu, ce qu'il a fait sans hésiter. Alors pourquoi sa plaie ne guérit-elle pas? Au verset 18, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de se guérir? Serais-tu vraiment pour moi comme une source trompeuse, comme une eau à laquelle on ne peut pas se fier ?» Il accuse Yahvé. Et on pourrait traduire littéralement « Tu es une source de déception. Seigneur, tu es pour moi comme un menteur, tu es infidèle. » Donc attention aux paroles qu'on prononce devant Dieu. Et le Seigneur répond avec fermeté. Il n'accepte pas cette tendance à se plaindre. Jérémie a dépassé les bornes. Il est allé trop loin dans ses paroles, il doit se repentir pour revenir à son ministère. Jérémie ne pouvait pas continuer dans cette attitude. Il y a deux conditions à remplir pour continuer. Se rattacher à Dieu et ne pas se laisser influencer par les paroles des autres. La perspective correcte, ce n'est pas à toi de changer ton message à cause d'eux. Et puis il renouvelle la promesse au verset 20. « Je ferai de toi pour ce peuple un mur de bronze fortifié. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. » Donc c'est renouveler la promesse. « Je te délivrerai de la main des mauvais, je te libérerai de la main des brutes. » Et ça nous rappelle vraiment tout le début du ministère du prophète. Quelques leçons pratiques sur ce passage. Dans notre déception, nous devons garder le respect et la crainte de Dieu et nous laisser motiver par la parole de Dieu et pas par les paroles du peuple, qu'elles soient positives comme négatives. Au chapitre 16, un signe est associé à la vocation du prophète. Il ne doit pas se marier et ne pas avoir d'enfant pour avertir ce qui va arriver à Judas. Ceux qui mettent les enfants au monde s'exposent à les voir périr. Il doit aussi s'abstenir de participer aux événements de la vie sociale. Pas de cérémonie, de deuil ou de fête. Tout cela, en fait, annonce ce qui va cesser. Cet isolement et cette solitude doivent donc se renforcer, ce qui risque de le faire encore plus mal voir par ses compatriotes. Puis, le retour de l'exil est comparé à la sortie d'Égypte. Il est comparé au nouvel exode. Au chapitre 17, verset 1, on a une image originale du péché. Le péché de Judas est écrit avec un stylet de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de leur cœur, sur les cornes de leurs autels. La loi avait été gravée sur des tables de pierre. Mais là, le péché des Israélites est gravé sur le cœur. Le diamant sert à graver les métaux les plus durs. Donc l'image parle à la fois de la dureté du cœur des Judéens et de l'incrustation du péché dans leur vie. Et cette image en prépare une autre, l'inscription des lois sur les tables du cœur humain dans le cadre d'une nouvelle alliance que nous verrons au chapitre 31. Il y a une plaie morale. Ce qui le préoccupe, c'est que ça fait longtemps qu'il prêche, il ne voit toujours rien. Au verset 15, ils me disent « Où est la parole du Seigneur? Qu'elle arrive donc? Quant à moi, je n'ai pas refusé d'être berger à ta suite. Je n'ai pas désiré ce jour de douleur, tu le sais. Ce qui sort de mes lèvres, et devant toi. » Ça fait longtemps qu'il prêche, toujours rien. Il est ridiculisé par le peuple. Dieu avait dit au début qu'il se hâterait d'accomplir sa parole. Où est la promesse? Il n'a pas refusé d'être berger, ni désiré que le peuple soit jugé. Donc il demande à Dieu de confirmer son ministère de prophète. Que ce qu'il annonce s'accomplisse. Ça nous enseigne aussi que dans les difficultés, on peut parler honnêtement avec Dieu, exprimer nos frustrations tout en gardant le respect de Dieu. Dans nos prières, demander à Dieu de confirmer ce qu'il a déjà promis dans sa parole. Et la fin du chapitre parle du sabbat, qui est un signe d'alliance avec le Seigneur, dont le but est de rappeler à l'homme qu'il vit pour le Seigneur et non pour le travail. pour les commerçants en particulier qui devaient laisser attendre les affaires au risque de passer à côté d'une bonne opportunité. Respecter le sabbat impliquait choisir Dieu plutôt que Mammon. Le commandement du sabbat constituait donc un bon test de la fidélité du peuple. Et dans notre société moderne, le refus d'avoir un jour chômé, par exemple dans les grands magasins, traduit une certaine mentalité au culte de l'argent. Jérémie sera ensuite chez le potier au chapitre 18. Il voit le potier qui fait un ouvrage sur un tour et la poterie est manquée. Donc il en refait une autre. Et là le Seigneur lui parle, il dit « Ne puis-je pas agir ainsi envers vous, comme ce potier, maison d'Israël, comme l'argile dans ma main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tantôt, je parle à propos d'une nation, d'un royaume, de déraciner, de démolir, de faire disparaître. Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé revient du mal qu'elle a fait, je renonce au mal que je pensais lui faire. Et tantôt, je parle à propos d'une nation, d'un royaume, de bâtir, de planter. Mais si elle fait ce qui me déplaît sans m'écouter, eh bien, je renonce au bien que j'avais parlé de lui faire. » Donc, le vase raté représente Israël qui ne répond pas aux intentions que Dieu avait à son égard. Il sera mis de côté par le Seigneur. On voit réapparaître les images de la vocation avec des mots qui sont très importants tout au long du livre de Jérémie. Déraciner, renverser, ruiner, bâtir, planter. L'exil est annoncé. Puisqu'ils ont tourné le dos au Seigneur, Dieu tournera le dos à son tour. On a ensuite un deuxième complot contre Jérémie. On veut le faire mourir en croyant pouvoir se passer de ce prophète parce qu'il y en a d'autres bien moins gênants que lui. Donc au chapitre 18, verset 21, il jette des imprécations. À cause de cela, livre leur fils à la famine, précipite-les sur le tranchant de l'épée, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, que leur mari soit atteint par la mort, que les jeunes gens soient frappés par l'épée pendant la guerre, qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand tu feras venir contre eux à l'improviste une troupe armée. Ils ont caché des filets sous mes pieds, et toi, Seigneur, tu connais tous les projets meurtriers qu'ils forment contre moi. Ne fais pas l'expiation de leurs fautes, n'efface pas leur péché de devant toi. Ils trébuchent devant toi, agis contre eux au temps de ta colère. » Ça nous rappelle les psaumes d'imprécation. Jérémie demande justice. Il en avait assez de demander aux gens de se repentir. Il était médiateur. Mais puisqu'on ne l'écoute pas, eh bien que ça arrive. Il a fait tout ce qu'il a pu. Au chapitre 19, il y a un mime qu'il doit accomplir. Il doit acheter une cruche et se rendre sur un lieu de culte où on sacrifiait les enfants. Et là, on a une image très dure. Dans les versets 8 et 9, je réduirai cette ville en un lieu dévasté, en un objet de sifflement d'horreur. Tous ceux qui passeront près d'elle seront atterrés et siffleront d'horreur à cause de toutes ces plaies. Je leur ferai manger la chair de leur fils et la chair de leur fille. Chacun d'eux mangera la chair de son prochain dans la détresse et le désarroi. Ça annonce les horreurs qui seront commises pendant le siège de la ville. C'est l'accomplissement des malédictions dans le cadre des sanctions de l'Alliance. Et tout cela s'est produit. Le cannibalisme sur les enfants par les femmes affamées. Il brise donc la cruche pour annoncer que le peuple et la ville seront brisés. Et le lieu des cultes idolâtres deviendra un cimetière, car il sera rendu impur, donc impropre au culte. Au chapitre 20, le prêtre Pachéhour, responsable de la police du temple, le fait frapper et attacher. Et là, c'est la première fois que Jérémie subit des sévices corporels. Mais il ne se laisse pas intimider et prophétise contre le prêtre. Il change son nom en l'appelant Terreur tout autour. Ce prêtre verra la ruine de Juda, partira en captivité et mourra en Babylonie. Une précision est apportée. Pour la première fois, l'envahisseur qui viendra du nord pour détruire Juda et Jérusalem est identifié aux Babyloniens. Et nous avons la dernière confession. Jérémie reproche à Dieu de l'avoir trompé en lui confiant une mission vouée à l'échec, qui ne lui rapporte que des déboires et de l'avoir mis dans une situation de souffrance. On se moque de lui et il est exposé aux outrages et aux railleries. Mais au verset 9, nous avons une description de l'expérience prophétique. Voici ce que dit Jérémie. Si je dis je ne l'évoquerai plus, je ne parlerai plus en son nom, c'est dans mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je n'y parviens pas. Il voudrait se taire, mais c'est plus fort que lui. La parole exerce comme une poussée qui ne peut contenir. Elle doit sortir. Deux choses sont à remarquer. Cette parole lui est donnée par quelqu'un d'autre et s'impose à lui puisqu'il voudrait ne pas la proclamer. Mais en même temps, elle lui vient de l'intérieur. Elle est à la fois de Dieu et du prophète. Jérémie a une conscience aiguë de l'inspiration, d'une parole produite en lui par le Seigneur. Et à partir du verset 11, il dit « Mais le Seigneur est avec moi comme un héros brutal. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne l'emporteront pas. Il voit les reins et les cœurs, que je vois ta vengeance contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez pour le Seigneur, louez le Seigneur, car il délivre le pauvre de la main des mauvais. » Il s'est un moment ressaisi. On peut lire « L'Éternel est avec moi comme un puissant guerrier, c'est à toi que j'ai remis ma cause, chantez à l'Éternel, louez l'Éternel. » Puis, au verset 14 et 15, il craque. À nouveau. Maudit soit le jour où je suis né, le jour où ma mère m'a mise au monde, qu'il ne soit pas béni. Maudit soit celui qui porta à mon père la bonne nouvelle, un fils mâle est né de toi, et qui le combla de joie. Il maudit donc le jour de sa naissance, comme Job l'a fait. Il fait un effort de volonté pour s'accrocher aux promesses de Dieu et lui faire confiance. Mais la victoire ne se remporte pas une fois pour toutes. Et pour surmonter les sentiments de révolte ou d'amertume, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. La victoire d'un jour doit se reconquérir les jours suivants. Contrairement aux fois précédentes, Dieu ne répond pas. Les silences de Dieu sont durs à supporter. Et ici, c'est une grâce, car Dieu l'aurait sévèrement repris. Le prophète finira bien par s'arrêter et reviendra à la raison. La prière de louange qu'il a adressée juste avant l'a bien montré. Donc inutile de l'accabler. Le Seigneur lui laisse le temps de reprendre le dessus. Cette manière de faire peut nous servir d'exemple face à des personnes qui sont submergées par la souffrance. Quelquefois, l'écoute silencieuse est peut-être le seul soutien possible. D'autres fois, il faut parler pour aider. On saute au chapitre 23, où Jérémie dénonce la conduite des mauvais bergers qui dispersent le troupeau. Le Seigneur va rassembler ce qui reste du troupeau pour le ramener dans un enclos où il prospérera et sera placé sous la conduite de bons bergers. Cette image rappelle Michée. Au verset 5, il est noté « Les jours viennent où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il agira dans le pays selon l'équité et la justice. En ces jours, Judas sera sauvé. Israël demeurera en sécurité. » Et voici le nom dont on l'appellera. Yahvé est notre justice. Parmi ces bergers, un rejeton de David est présenté comme un germe. C'est un mot qui désigne l'héritier royal. Il est juste, répondra aux normes de Dieu. Il régnera avec compétence. Ce sont toutes ses qualités. Et tout indique que le germe n'est autre que le serviteur du Seigneur. Ça nous fait penser au quatrième chant du serviteur en Ésaïe 52. Sous ce règne, le peuple de Dieu recevra le salut et connaîtra la paix et la justice. Le roi sera appelé le Seigneur, notre justice. Et c'est sans doute un jeu de mots avec le nom du dernier souverain de Juda, Sédécias, car son nom signifiait « Le Seigneur est ma justice ». Et il ne s'est pas montré à la hauteur du nom qu'il portait. Ensuite, il va y avoir une démonstration de différence entre le vrai et le faux prophète. Au verset 16, il vous abuse par des discours futiles. Ils ne racontent pas ce qui vient de la bouche du Seigneur, mais les visions de leur propre cœur. Le vrai prophète prêche la repentance et n'hésite pas à annoncer le malheur, un châtiment des fautes. Par contre, le faux prophète, il proclame ce que les gens ont envie d'entendre. Et au lieu de transmettre la parole du Seigneur, il s'appuie sur des visions et des songes qui sont le pur produit de leur imagination. Dans le Proche-Orient, c'était le moyen de recevoir une communication avec les dieux. Donc les faux prophètes imitent le paganisme. Et leur responsabilité, c'est qu'ils contaminent le pays. Je lis au verset 25-26. J'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. Voici comment prophétisent donc les faux prophètes. Et au verset 31, je m'oppose, déclaration du Seigneur, aux prophètes qui de leur propre langue fabriquent une déclaration divine. Je m'oppose, déclaration du Seigneur, aux prophètes qui annoncent des rêves mensongers, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et leur témérité. Alors que moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. En opposition à ces songes, la parole est semblable à un feu, à un marteau qui pulvérise le roc. Verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclaration du Seigneur, et comme un marteau qui fait éclater le roc? Ça nous rappelle le Deutéronome 18 qu'il faudrait relire. Les chapitres 24 et 25 sont donc la conclusion des prophéties des 25 premiers chapitres du livre de Jérémie. Au chapitre 24, on a la vision de deux corbeilles de figues. Alors l'une contient de très bonnes figues, comme les figues précoces de la première récolte, et l'autre de très mauvaises figues qu'on ne peut manger tant elles sont mauvaises. Et le Seigneur lui dit, mais que vois-tu Jérémie, que vois-tu? Les belles figues représentent les Judéens qui ont été amenés en captivité, et les mauvaises figues représentent les Judéens restés au pays. Jérémie ruine donc les illusions de ceux qui sont restés au pays. Verset 8, quant aux mauvaises figues qu'on ne peut pas manger tant elles sont mauvaises, ainsi parle le Seigneur. C'est ainsi que je traiterai Sédécias, roi de Juda, les princes et le reste du peuple, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent en Égypte. Je ferai d'eux un sujet de terreur, un malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'outrage, de fable, de raillerie, de malédiction dans tous les lieux où je les bannirai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu de la terre que je leur avais donnée ainsi qu'à leur père. Puis, au chapitre 25, les versets 3 et 4, la parole du Seigneur m'est parvenue. Je vous la dis inlassablement et vous n'écoutez pas. Donc il prêche depuis 23 ans maintenant, sans aucun résultat. Il a été persévérant. Mais il y a une nouvelle précision. C'est que la domination babylonienne durera 70 ans. 70, c'est un stéréotype de la durée du jugement dans les textes cananéens. C'est un chiffre rond, car la domination en effet durait 68 ans. Cette durée est symbolique. Il s'agit d'une année de sabbat pour la terre, pour compenser pour toutes les années sabbatiques que le peuple de Dieu n'a pas respectées tout au long de son histoire en terre promise. La loi de Moïse prévoyait, au Lévitique 25, de laisser reposer la terre tous les 7 ans. L'exil sera l'occasion de laisser reposer la terre pendant 70 ans, c'est-à-dire 10 fois 7 années. Ainsi, le nombre 7 fonctionne comme le signe du sabbat et il est multiplié par 10 pour la quantité d'années sabbatiques qui n'ont pas été respectées. Et on voit au verset 9 que les Babyloniens sont des instruments du Seigneur. J'envoie chercher tous les peuples du nord et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Nebuchadnezzar est appelé mon serviteur. Et au bout des 70 ans de cette domination, Babylone connaîtra le châtiment. Le Seigneur lui fera payer ses actes de barbarie. Dieu se sert des nations à leur insu pour réaliser ses desseins. Mais si elles manifestent une cruauté qui les enlève, qui les entraîne à la violence au-delà des desseins du jugement du Seigneur, alors elles sont coupables et le Seigneur va leur faire rendre des comptes. Versets 12 et 14, « Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je ferai rendre des comptes au roi de Babylone et à cette nation pour leur faute, parce qu'ils sont allés trop loin. Je les paierai de retour selon leurs actions et selon l'œuvre de leurs mains. » Puis il est parlé de la coupe de la colère pour toutes les nations. Et Dieu la fait boire à toutes les nations, car la colère de Dieu se manifestera par la guerre, c'est-à-dire l'épée. Jérusalem sera la première mentionnée, car le jugement commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17 nous rappelle ce thème. Jérusalem, c'est la ville sur laquelle le nom du Seigneur a été proclamé, et ses privilèges accroissent sa responsabilité. Et puis, il y a une énumération de diverses nations, et à la fin Babylone. Et le roi de Babylone est appelé le roi de Shéchak. Chez chaque, c'est un codage, une écriture, qui consiste à remplacer la première lettre de l'alphabet par la dernière, la deuxième par l'avant-dernière, etc. Et donc, décoder, le nom chez chaque donne en fait le nom Babel. On a deux images pour terminer. Celle du lion rugissant, au verset 30. Le Seigneur rugit d'en haut. De son séjour sacré, il fait retentir sa voix. Il pousse des rugissements au-dessus de son domaine. Il pousse un cri de vendange comme ce qui fout le pressoir contre tous les habitants de la terre. Un vacarme se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Car le Seigneur a un litige avec les nations. Il entre en jugement contre tous. Il livre les méchants à l'épée. Déclaration du Seigneur. Donc l'image du lion rugissant évoque la terreur et rappelle le prophète Amos. Et puis l'image des fouleurs de raisin qu'on retrouvait aussi chez le prophète Ésaïe foule le vin de la colère de Dieu pour le verser dans la coupe de chacune des nations. Et que tous les habitants de la terre doivent en boire pour en être assommés. Et on retrouve à la fin l'image du procès d'alliance que le Seigneur intente à toutes les nations, parce qu'elles sont liées par alliance au Seigneur, et cela confirme l'existence d'une alliance créationnelle universelle entre le Seigneur et l'humanité. Donc dans cette première partie, nous avons vu beaucoup de choses depuis l'appel de Jérémie, avec des gestes symboliques, la description du péché, du ministère prophétique, l'annonce du germe, l'annonce de l'invasion babylonienne, des 70 ans de captivité. Et dans la deuxième partie, nous entrerons plus en détail, surtout pour aborder la partie de la nouvelle alliance.